La bibliothèque russe et slave. Mikhaïl Lermontov. Lermontov Mikhaïl Yurievitch. 1814-1841. Un héros de notre temps. Герой нашего времени. 1839-1841. Traduction de A. de Villamarie, Paris, Librairie parisienne, 1884. Réédité chez P.V. Stock, 1904. Avant-propos du traducteur. En France, nous connaissons peu la Russie, c'est-à-dire l'esprit de la nation, ses mœurs, son caractère et surtout sa littérature. Or, c'est là le miroir dans lequel se reflète un peuple entier, et dans lequel on peut apprendre quel rang il a déjà conquis dans la civilisation moderne, ou de quels pas il marche vers le progrès. Des steppes immenses et glacées, des cosaques à la mine sauvage, voilà géographiquement et historiquement sous quel aspect la plupart d'entre nous se représente la Russie. Et cependant, il y a dans cet immense empire un grand peuple, grand surtout par le développement littéraire qui s'est manifesté chez lui depuis le commencement de ce siècle. Je sais qu'on peut regretter pour ce pays le manque de ces institutions libérales, si nécessaires au mouvement intellectuel d'une nation. Mais la Russie marche dans cette voie d'un pas ferme et certain. L'abolition du servage, œuvre éminemment chrétienne et digne du XIXe siècle, n'a été que le prélude d'une grande révolution sociale, qui s'accomplit lentement et fatalement, malgré les excès de quelques fanatiques impatients d'arriver au but. Leur violence appelle les violences du pouvoir, et ne font qu'éloigner pour ce peuple le moment où il pourra jouir des avantages sérieux d'une liberté progressive, modérée par l'ordre, mais toujours amie du perfectionnement social. Parmi les écrivains nombreux qui ont illustré la littérature russe pendant la première moitié de notre siècle, un surtout est particulièrement sympathique, autant par l'élévation que par la précocité de son génie, et cette sorte de fatalité dont sa vie si courte est empreinte. C'est Lermontov, né en 1814, mort à la suite d'un duel en 1841. Coïncidence étrange et douloureuse que deux des plus grands poètes de la Russie, Pouchkin et Lermontov, soient tombés dans une rencontre. Ce que cet épouvantable malheur a ravi à la Russie et aux lettres, qui le saura jamais? Lorsqu'on parcourt les œuvres de ce poète mort à 26 ans, on ne peut s'empêcher d'être affligé en songeant au monument qu'il eut, sans nul doute, élevé durant une longue vie. Lermontov écrivait déjà à 12 ans, et le charme de ses compositions aurait pu lui valoir, comme à Victor Hugo, le titre d'enfant prodige. Orphelin dès son bas âge, il fut élevé par sa grand-mère et reçut cette instruction distinguée et complète qu'on s'applique à donner aux jeunes gens de famille en Russie. L'étude des langues anciennes, celle des langues vivantes surtout, l'histoire, la philosophie, les mathématiques, toutes ces différentes branches de l'instruction furent abordées avec des succès rares par le jeune Lermontov que l'on destinait à la carrière militaire. Dans ce pays où les privilèges de caste sont encore vivants, la carrière militaire est celle qu'embrassent de préférence les jeunes gens de famille noble. Lermontov était petit, avait l'air gauche, les yeux rouges et les pieds assez mal tournés. Il était cependant fort vaniteux, jaloux surtout des succès mondains de ses camarades, et il ne pouvait leur pardonner de réussir mieux que lui, se sentant une certaine supériorité intellectuelle. Aussi son caractère était-il empreint des inconvénients de ce travers. Une susceptibilité outrée, une humeur railleuse et sarcastique devaient lui attirer les querelles et les duels dont le résultat lui fut si fatal. Il servit d'abord aux porte-enseignes, puis aux hussards de la garde, où il mena une vie fort dissipée et composa des poésies érotiques qui, par leur verve et leur facilité, séduisirent tous ceux qui les lurent. Un duel qu'il eut avec M. de B., à la suite d'une querelle insignifiante, lui valut son envoi au Caucase, pays où il avait passé une grande partie de sa jeunesse et pour lequel il eut toujours une prédilection marquée. C'est là qu'à 10 ans, il s'était épris d'une jeune fille dont le souvenir resta toujours gravé profondément dans son âme. Il assurait à 25 ans qu'il n'avait réellement aimé que cette fois. C'est en écoutant les récits naïfs, pleins d'images et de fantaisies orientales des habitants de ces hautes montagnes, que son génie s'inspira et acquit cette élévation qui le plaça au niveau des grands poètes. Aussi, ce sont presque toujours ces cimes couvertes de neiges éternelles et les riantes plaines de la Géorgie qu'il choisit pour théâtre de ses fictions ou qu'il chante en vers dignes de cette nature imposante. Lermontov a toutes les qualités d'un grand poète. Imagination riche et ardente, langage toujours élevé et plein de cette couleur qui est le vêtement obligé des plus belles idées poétiques. Sans avoir le scepticisme de Byron, dont il affectionnait la lecture, il est plus tendre et plus aimant que lui et ne lui cède jamais en passion et en énergie. Amant enthousiaste de la nature, il sait en dérouler les magiques tableaux comme un habile enchanteur, et qu'il dise un simple récit ou que sa pensée s'élève dans la plus haute région de la philosophie, il reste toujours un des maîtres de la littérature contemporaine. Le démon, et les récits que nous donnons ici sous le titre de « Un héros de notre temps » sont en vers et en prose ses œuvres les plus remarquables, celles où son génie s'est montré sous ses faces les plus diverses et les plus attrayantes, et qui peuvent donner plus particulièrement la mesure de son talent. Les œuvres de Lermontov n'ont été publiées qu'après sa mort. Leur réunion en recueil et leur publication sont dues aux soins pieux d'un ami qui ne voulait pas que le pays fût privé de ses chefs-d'œuvre. Bien qu'une traduction ne soit jamais que la pâle copie d'une œuvre, comme la gravure qui ne donne jamais qu'une faible idée de la composition d'un grand peintre, nous avons cru néanmoins qu'il plairait à tous ceux qui s'intéressent à la littérature étrangère de parcourir une de ses plus belles productions.